Seigneur, je te remercie pour ta parole que tu nous as donnée, Seigneur. Je sais que tu as un message à parler à nos cœurs, à nous, pas juste d'une manière superficielle. Tu veux le faire en profondeur, un œuvre de changement, un œuvre de transformation. Fais-nous réaliser, Seigneur, ce que tu veux faire au milieu de nous, ton plan pour cette humanité, y compris pour nous. Merci, Seigneur, pour ta parole qui nous enseigne, qui nous instruit, qui nous révèle ta pensée. Continue à parler à nos cœurs, puis donne-nous, Seigneur, des personnes qui transmettent ce message, puis qu'on puisse être des témoins dans cette ville et dans les villes et les villages environnants. Nous remettons ce temps entre tes mains dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Le message que le Seigneur a mis sur mon cœur, c'est pas la continuité de la série que j'ai commencée sur les 10 commandements. Ça, je vais revenir un petit peu plus tard. Mais pour aujourd'hui, c'est un message pour nous parler que Dieu a un plan pour ta vie. Pour ma vie, puis chacune de nos vies. Dieu a un plan pour nos vies, puis il veut nous préparer une nouvelle destinée. Pas juste pour les chrétiens, parce que les chrétiens ont déjà saisi de vouloir faire partie de cette nouvelle destinée, mais tout le monde, dans Beauharnois, je le répète, Dieu les appelle à faire partie de sa destinée. Dieu a un plan pour chaque personne qui sont ici. Je dis pas que tout le monde est déjà rentré dans son plan, mais Dieu a un plan, puis Dieu veut venir en aide, il veut les secourir, il veut faire un œuvre de bénédiction dans leur vie, les délivrer, les guérir, les changer. Puis c'est ça qui est notre message qui a été véhiculé par Jésus lui-même, que Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Puis là, il dit, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Mais c'est ça le message, la bonne nouvelle. Le salut que Dieu veut donner à travers Jésus-Christ, à travers son œuvre qu'il est venu nous annoncer. Dieu se soucie des êtres humains. Dieu se soucie des gens qui sont autour. Il se soucie de chacun de nous. Il n'est pas comme un Dieu assis sur sa chaise en haut, puis à côté sur un mur, puis là, il fait une petite sieste. Non, Dieu, il s'inquiète de notre vie. Il regarde ce qu'on vit, puis ça lui fait de la peine quand on souffre. Puis ça, il revient à l'envers de voir comment est-ce que l'humanité est en train de se détruire. Dieu veut intervenir dans la vie, puis il intervient déjà dans la vie de ceux qui ont donné leur vie au Seigneur. Mais il veut intervenir dans les vies de tout le monde qui sont ici. Dieu, il s'intéresse à ma vie, à vos vies, puis aux vies de tout le monde qui sont là dehors. Puis il y en a qui se posent la question, est-ce vrai que Dieu a un plan pour moi? Si je vous pose la question, le savez-vous que Dieu a un plan pour vous? Le savez-vous que Dieu a préparé des choses pour vous? Là, vous avez répondu à l'appel parce qu'il vous a appelé à travers Jésus-Christ à recevoir Jésus. Puis là, votre nouvelle vie est commencée. Puis vous pouvez déjà expérimenter des exaucements de prières, des guérisons, des délivrances. Dieu change notre vie. Il nous transforme. On est devenu qu'est-ce qu'on est aujourd'hui parce qu'on s'est accroché à Jésus. Mais Dieu avait un plan pour notre vie, puis encore d'autres choses de préparer. C'est des œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. Il savait dans sa préscience qu'on accepterait Jésus-Christ, puis là, il a commencé à nous intégrer à son plan une fois qu'on l'a accepté. Mais Dieu veut faire la même chose à ceux qui sont dehors. Il y a un message pour Beauharnois, puis pour nos familles, il y a un message pour ceux qui nous entourent, nos compagnons de travail. Il veut les sauver, il veut les amener à lui, puis il veut nous utiliser pour cette grande tâche-là. Le plan, comme je l'ai dit dans une autre prédication, Dieu avait un plan de bénir ses créatures. C'était pas un plan de malédiction que Dieu avait, c'était un plan de bénédiction. Quand il a mis Adam et Ève dans le jardin d'Éden, les arbres de toute espèce, des fruits, des légumes, il avait à garder le jardin et à le cultiver. Il pouvait prendre de tout ce qui était là. Dieu, quand il a créé l'homme et la femme, il leur a dit, Dieu les bénit. Ils ont été bénis, Adam et Ève. Dieu a à cœur de bénir sa création. Puis là, il nous a dit à Adam et Ève, ça c'est dans Genèse 1, 28, Dieu les bénit, puis Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Dieu voulait les bénir, les combler, leur donner tout ce que Dieu avait créé, il voulait leur donner. C'était ça le plan de Dieu. C'est sûr que Dieu prévoyait que l'homme désobéirait. L'homme et la femme ont désobéi à Dieu. Puis qu'est-ce que ça l'a fait? Ils ont été privés de la bénédiction de Dieu à cause du péché, à cause qu'ils ont obéi au diable. Là, le diable est venu comme mettre le trouble dans, pour nous empêcher de recevoir la bénédiction de Dieu. Le sol a été maudit à cause de leur désobéissance. Ils ont été chassés du paradis terrestre. Ils devaient errer à travailler avec peine pour gagner leur nourriture. C'est comme si le péché, ou c'est comme si le fait de désobéir à Dieu, ça les a privés de la bénédiction de Dieu. Mais le plan initial, Dieu voulait bénir ses créatures. Il voulait que tout le monde soit dans la bénédiction. Puis par la suite, ça a été que les gens ont souffert, ils ont eu de la misère, les chicanes de famille, Caïn tua son frère. Puis après ça, on voit dans l'humanité des guerres, la destruction, le malheur, les souffrances, la maladie, la mort. Ça s'est étendu sur la terre, puis tout ça, c'était le résultat de nos péchés. Pourtant, Dieu avait un plan de bénir sa création. Pourquoi que tout cela est là aujourd'hui? Pourquoi qu'il y a tant de gens qui souffrent? Les gens souffrent puis ils savent même pas pourquoi ils souffrent. Pourtant, Dieu le révèle dans sa parole pourquoi que les gens souffrent. Ils souffrent à cause du péché, à cause de la désobéissance. Ça amène séparation entre l'homme et Dieu. Ça nous empêche d'obtenir les bénédictions que Dieu avait pour nous. Puis malgré le fait que la chute de l'homme est venue, puis qu'il y a eu comme la malédiction, qu'on est privé de la bénédiction de Dieu. Malgré cela, il y a des gens qui ont compris que Dieu voulait les bénir, quand même. On voit le roi David, là. Lui, c'est un homme selon le cœur de Dieu. Il s'accrochait à Dieu. Il parlait à Dieu tous les jours. Il chantait des louanges à Dieu à tous les jours. Il espérait en son Dieu. Il avait mis sa confiance en Dieu. Qu'est-ce que ça l'a eu comme résultat? Ça l'a eu comme résultat qu'il a reçu la bénédiction de Dieu. Malgré le fait qu'on est tous sous la malédiction à cause du péché, David avait découvert que Dieu il est miséricordieux. Dieu, il prend plaisir à pardonner. Dieu prend plaisir à quand même à écouter nos prières. Puis quand on s'accroche après lui, puis qu'on y met notre confiance, Dieu y intervient, puis il veut nous bénir. Malgré que tout va mal, il y a des personnes qui ont découvert que Dieu répand sa bénédiction si on se tourne vers lui. Amen. Qu'on peut se tourner vers Dieu, puis recevoir ses bénédictions. David, dans un de ses psaumes, je ne vous lirai pas toutes ses idées, parce qu'il y en a plein dans la parole de Dieu, des idées de David, surtout dans les psaumes. Mais dans le psaume 139, le verset 14, il dit, il parle à Dieu, « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse, puis tes œuvres sont admirables, puis mon âme le reconnaît bien. » David, s'il y avait une personne qui avait de l'opposition dans sa vie, c'était bien David. Il a été loin comme roi, puis ça lui a pris 20 ans avant qu'il puisse s'asseoir sur le trône. Dieu l'avait appelé à être roi. Ça a pris 20 ans avant qu'il puisse s'asseoir sur le trône parce que Saül ne voulait pas débarquer. Puis après ça, il a eu de la chicane avec ses enfants. Il a eu des troubles avec d'autres peuples. Il était obligé de faire la guerre. Des problèmes... Il y en a eu par-dessus la tête. Des attaques du diable, en fin de compte, pour essayer de le décourager dans sa vie. Mais ce qu'a fait David, il a resté accroché à Dieu, puis malgré que tout va mal, puis malgré toutes les souffrances qu'il pouvait avoir, puis les combats qu'il avait à livrer, il avait découvert qu'il était une créature merveilleuse. Puis ça, c'était les œuvres de Dieu qui se faisaient dans sa vie. Il était heureux d'être ce qu'il était malgré ses souffrances, malgré ses problèmes. Il reconnaissait que le bien que Dieu lui procurait. Il avait appris à regarder en haut. Il ne regardait pas ses problèmes, il regardait en haut. Puis quand il avait un problème, il le remettait à Dieu. Puis il mettait sa confiance en Dieu. Que c'est qu'il a reçu la bénédiction de Dieu. Si on lit le psaume 23, c'est David qui parle encore. Il dit, « Dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Malgré le fait qu'il avait les pires problèmes dans sa vie, Il avait une pleine confiance que Dieu était avec lui, puis qu'il recevait la bénédiction de Dieu. En lisant au complet, vous allez voir que même Dieu dressa devant lui une table en face de ses adversaires. Dieu oignait d'huile sa tête, puis sa coupe déborde. C'était la bénédiction dans sa vie, à cause qu'il avait mis sa foi en Dieu. C'était le fruit de sa relation avec Dieu. Tout ce que David a reçu, c'était le fruit de sa relation. Malgré que l'ensemble de l'humanité ne connaît pas Dieu, mais quelques-uns l'ont connu puis qu'ils l'ont vécu, lui, il le vivait. Tout ça pour dire que tout ce qui se passe présentement, qu'il y en a plusieurs qui ne connaissent pas Dieu, il y en a des milliers, des centaines de milliers, il y en a des millions, des milliards sur la terre qui connaissent pas Dieu, qui connaissent pas le sentier de Dieu, puis ils savent même pas pourquoi, puis qu'il y a des chrétiens, des gens qui ont compris le message, puis ont cru, puis ils sont attachés à son message, puis là maintenant ils marchent avec leur Dieu, puis ils reçoivent la bénédiction de Dieu. Ça dit pas qu'on n'a pas de combat. Parmi les combats qu'on peut vivre, on a quand même la paix et la joie de Dieu. Souvent, les gens comprennent pas tous les malheurs qui leur arrivent, puis on met la faute sur Dieu. Il y a des souffrances qui nous arrivent, on se fait voler nos affaires, on se fait haïr par des gens sans cause, il nous arrive des problèmes financiers, des problèmes dans notre santé, des problèmes au travail, on a toutes sortes de problèmes qu'on vit. Puis, dans l'ensemble du monde, il leur arrive plein de problèmes, puis tout de suite, ils se mettent à en vouloir à Dieu, puis ils se disent, Dieu m'aime pas. C'est un mensonge. Dieu les aime. Dieu aime tout le monde. Jésus a dit, dans Jean 10:10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. C'est le voleur qui vient pour égorger et détruire. C'est pas Dieu. C'est le voleur, puis le voleur, c'est qui? C'est le diable. C'est notre ennemi commun. C'est l'ennemi du monde entier. C'est le tyran qui domine sur l'ensemble de l'humanité. Puis ces gens-là savent pas que c'est le diable qui leur fait ça, puis accuse Dieu, puis dit « Dieu m'aime pas », ou « Dieu, il veut rien savoir de moi », puis là, ils se mettent même à haïr Dieu à cause de leurs problèmes. Pourtant, Jésus a dit « Je suis venu afin que les brebis aient la vie ». Et qu'elle soit dans l'abondance. C'est la bénédiction que Jésus apporte. Puis si nous sommes francs, en continuant dans la même idée, si on est franc, on peut avouer notre ignorance du chemin de la paix puis du bonheur. La majorité du monde vont se tourner vers l'alcool, vers la drogue, vers les psychiatres, les psychologues. Ils essayent d'avoir des pilules, ils essayent d'avoir toutes sortes de choses pour essayer d'avoir un stimulant pour avoir une sensation de bonheur ou de joie ou de paix. Les gens sont ignorants. La majorité du monde est ignorante de ce que Dieu peut faire dans leur vie. Puis des fois, même les chrétiens l'oublient. Mais il faut revenir à Dieu parce que c'est Dieu qui peut nous donner tout ce qu'on a de besoin, combler parfaitement notre intérieur. Dans Romains 3, le verset 16, ça dit « La destruction et le malheur sont sur leur route, puis ne connaissent pas le chemin de la paix. » Savez-vous, c'est qui le chemin de la paix? C'est Jésus. Nous, on le sait, mais les gens dans le monde, la destruction et le malheur sont sur leur route, puis ne connaissent pas le chemin de la paix. Qui va aller leur annoncer que c'est Jésus qui peut faire une différence dans leur vie? C'est nous autres. Amen. Puis là, les gens choisissent des chemins selon leurs pensées, puis ça les mène à la mort. Ils vont s'inventer des religions, ils vont s'inventer des philosophies, ils vont s'inventer toutes sortes de raisons pourquoi ils existent. Ils essayent de trouver des réponses dans la science. Mais c'est Jésus seul qui peut les guider dans le sentier de la paix, de la bénédiction, du bonheur, puis de la guérison, puis des délivrances.
Amen.
Amen. C'est Jésus seul qui peut le faire. Croyons-nous que Jésus peut le faire?
Amen.
Amen. Puis il peut le faire, puis il l'a fait déjà dans ma vie, il l'a fait aussi dans certaines choses dans vos vies, puis il veut le faire encore. Parce qu'il nous aime. Notre errance nous sépare de Dieu, mais grâce à Jésus-Christ, nous pouvons changer de vie. Les humains qui regardent juste à la manière humaine, regardent les choses du monde, puis les solutions que le monde peut essayer de leur apporter. Mais quelqu'un qui connaît Dieu comme David connaissait son Dieu, il était connecté en haut, puis il recevait la bénédiction de Dieu malgré tous les problèmes, malgré les souffrances, malgré les combats, malgré les luttes, malgré les attentes. Parce que des fois, on a des attentes, puis ça nous décourage, les attentes. On trouve ça long avant d'être guéri, ou avant d'être délivré, ou avant de recevoir des exaucements de prière. On se décourage, puis on tombe abattu, on est comme accablé, puis on pense que Dieu est pas avec nous. On n'a pas de raison de penser de même, frères et sœurs, parce qu'on a en nos mains les plus grandes et les plus précieuses promesses de Dieu. Sont là, sont données, sont dans sa parole. C'est là-dedans qu'on va aller chercher tout ce qu'on a de besoin. Puis c'est grâce à Jésus qu'on peut obtenir ces promesses-là. Ça nous dit dans Isaïe 53, le verset 6, « On était tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. » Ça, c'est ce qui se passe dans le monde. Chacun suit sa propre voie. On est tous errants, puis on cherche où on s'en va, puis on le sait pas. « Mais l'Éternel a fait tomber sur Jésus l'iniquité de nous tous. » Jésus a payé la dette de nos péchés pour qu'on puisse recevoir toute la bénédiction de Dieu. Toutes les promesses de Dieu sont pour nous, chacun de nous. Vous êtes tous des héritiers de ses promesses. Dieu vous aime, puis Dieu veut vous bénir, puis il veut pourvoir à votre vie, puis il veut vous guérir, il veut vous délivrer.
Amen.
Gloire à Dieu. Il faut le saisir par la foi. Si je l'entends aujourd'hui, puis deux minutes après, j'oublie tout, puis je retombe dans la vie normale, j'obtiens rien. Faut s'accrocher à aller aux promesses. On entend une promesse de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Êtes-vous des enfants de Dieu? Oui, les promesses sont pour vous. Saisissez-les, gardez-les par la foi, puis attendez-les, les promesses. Combien de temps qu'il faut attendre une promesse?
20 ans.
Il n'y a pas de temps. Ça, c'est une prière que j'ai faite, ça a pris 20 ans à être exaucée. Mais il y en a des prières que ça prend 2 semaines, il y en a que ça prend 6 mois, puis il y a des prières, des fois, ça va prendre 20 ans. Combien de temps qu'on va attendre? On va attendre jusqu'à temps qu'elle soit exaucée. Faut pas se décourager de prier. Faut pas l'abandonner, la prière. On demande 2-3 fois au Seigneur, « Seigneur, je remets ça entre tes mains. » Puis après ça, on l'oublie, puis on ne le demande plus. Puis voyons, Dieu n'exauce pas mes prières. Non, mais il faut les conserver, les promesses. Puis si vous avez une prière à cœur, prenez un verset de la Bible qui est une promesse pour ce sujet-là. Continuez à le demander. Puis mettez votre confiance. Persévérez dans cette attente-là de ce que Dieu va faire, cet exaucement-là. Puis est-ce que Dieu va le faire?
Oui.
Pourquoi? Parce qu'il y a des versets qui le disent. Et Dieu fera justice à ses élus qui crient à lui nuit et jour. Il leur fera promptement justice. Dieu, il dit que c'est juste de répondre à une prière. Dieu dit, c'est juste que je réponde parce que je l'ai promis, j'étais pour le faire, puis c'est juste qu'il le fasse. Puis il va donner justice à ses élus qui crient. Il faut continuer à le demander, frères et sœurs. Dieu nous appelle au salut parce que Jésus a tout accompli pour qu'on reçoive sa bénédiction. Il nous appelle au salut puis a préparé pour nous un salut à travers son Fils Jésus-Christ, puis on l'a accepté puis on l'a reçu. Puis là, je parle à tous ceux qui ne l'ont pas reçu. Dieu veut vous bénir. Dieu veut vous exaucer. Dieu veut répondre à vos besoins. Faut croire que Jésus-Christ a tout accompli. Dans 1 Thessaloniciens 5:9, ça nous dit « Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. » À cause de Jésus, ça nous évite la colère. On n'a pas besoin de subir la colère de Dieu. On peut recevoir Jésus et être parfaitement pardonné de tous nos péchés. Quand tu le reçois, parce que tu y crois, tu l'acceptes, tu le confesses que tu y crois. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ça t'épargne de la colère à venir. Il va te donner le Saint-Esprit. Une nouvelle vie commence. Puis là, tu marches en contact avec Dieu. Puis là, il y a plein d'autres sortes de récompenses, ou pas des récompenses, mais des exaucements de prières que Dieu veut faire dans vos vies.
Amen.
Dieu t'appelle, il nous appelle, mais je vous le dis personnellement, individuellement, Dieu t'appelle, puis il y a des projets pour toi. Il n'y a pas juste un projet en groupe, il y a des projets individuels pour chacun de nous. Dans Jérémie 29, le verset 11, ça dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, c'est des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. » Dieu veut pas qu'on marche comme sa malédiction, sa condamnation d'Adam et Ève, non. À cause de mes péchés, même pas parce que Jésus les a pardonnés quand on l'a accepté. On n'a plus à penser qu'on attend une condamnation. On a à penser qu'on attend sa bénédiction. Puis des exaucements de prière. Puis il veut nous donner un avenir, une espérance. Dans notre vie terrestre, il veut nous accompagner. Puis il y a de quoi de beau qui s'en vient après la mort. C'est la vie éternelle. Ça va être extraordinaire quand on va être rendu là au bord. Il veut nous assurer son éternité. Il nous l'a promis dans sa parole qu'il nous donnait la vie éternelle.
Amen.
C'est-tu pas beau, ça? Dans Jean 10, 27, il dit, « Mes brebis entendent ma voix. Il dit, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. » Et personne ne les ravira de ma main. Dieu nous assure de nous donner la vie éternelle. On périra jamais. Ça, c'est une vie sans fin. C'est pas sur la terre. C'est après notre mort. La Bible parle qu'on va être ressuscité. Ressuscité, ça veut dire notre corps qui était dans la poussière, il va nous redonner un corps qui va être éternel, un corps pour vivre cette éternité-là, dans son ciel, ce que le monde appelle le ciel, le paradis, le royaume des cieux. Il y a toutes sortes de noms pour désigner le lieu où ce que Dieu est présentement. C'est là qu'on s'en va, qu'on va vivre une histoire éternelle. Le monde terrestre est pour un certain temps, mais ça va disparaître, l'histoire va se finir. La vraie vie, c'est l'autre bord, dans sa présence pour l'éternité. Puis il dit, « Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Puis personne ne va les ravir de ma main. » Dieu promet de nous garder. Débarquez pas. Restez dans la foi. Accrochez-vous aux promesses de Dieu. Accrochez-vous. Gardez cette espérance-là que Jésus est mort sur la croix pour pardonner vos péchés. Ne vous tournez pas vers les fausses religions qui vont vous dire « Ah, oh, mais c'est pas ça, le christianisme, c'est d'autres choses. » Non, c'est pas d'autres choses. La Bible, il n'y a qu'un seul plan, un seul chemin. Ce chemin-là, c'est Jésus. Amen.
Amen.
Il y a un jour, l'apôtre Paul, il a fait face à sa destinée. Parce que c'est un homme méchant, l'apôtre Paul. Il tuait des chrétiens. Des gens comme nous qui avaient la foi en Dieu, puis Paul, lui qui était un juif, bien ancré dans sa religion, il pensait que c'était son devoir de tuer les chrétiens, parce que les chrétiens, c'était comme une nouvelle doctrine qui était contraire à l'enseignement des juifs. Puis un jour, pendant qu'il était sur le chemin, puis s'en allait vers Damas, pour aller chercher d'autres chrétiens, puis aller les persécuter, il y a eu une vision, puis il y a eu une lumière qui est venue sur lui, puis Dieu lui a parlé, Jésus lui a parlé, puis il dit, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Il a dit, qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. Là, il venait de saisir que c'était vrai, que Jésus existait. Pourquoi qu'il s'en est rendu compte? Parce qu'il a eu une expérience personnelle avec Jésus. Il a vécu quelque chose qui a donné... Wow, il est là, Jésus. Puis ça l'a changé sa vie. Puis tout de suite après ça, parce qu'il est tombé aveugle suite à cette vision-là, il y a quelqu'un qui est allé vers lui, il s'appelle Ananias. C'est un serviteur de Dieu, une personne qui aimait Dieu. Puis ce serviteur de Dieu-là, il est envoyé par Jésus pour aller voir Paul, puis aller prier pour lui, pour qu'il puisse être guéri. Puis là, on voit ce passage-là dans Acte 22, le verset 12. Il dit, or, un nommé Ananias, homme pieux selon la loi, et de qui tous les Juifs demeuraient à Damas, rendaient un bon témoignage, il vint se présenter à moi, ça c'est Paul qui parle, et me dit, « Saul, mon frère, recouvre la vue. » Et au même instant, il a recouvert la vue, puis là, il regardait Ananias. Ça, c'est un miracle. Tout en partant, Paul était témoin aussi d'un miracle fait par qu'un disciple de Jésus a prié pour lui. Puis là, il continue à dire, puis il dit, ça c'est Ananias qui parle, « Le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste, à entendre les paroles de sa bouche. » Le juste, c'est Jésus. Car tu lui serviras de témoin auprès de tous les hommes des choses que tu as vues et entendues. À partir de quand que la vie d'une personne peut changer? Mais c'est à partir du moment qu'il vit une expérience avec Jésus-Christ. À partir du moment que tu viens de réaliser que Jésus est là parce que Dieu a intervenu dans ta vie, Jésus peut intervenir de différentes façons. La vie d'une personne change complètement. Autant que les gens peuvent être rebelles, méchants, puis vouloir être tout cassés sur le chemin, parce qu'ils sont aveugles, puis ignorants, puis ils savent pas où aller, mais autant que quand tu rencontres Jésus-Christ sur ton chemin, puis que là, le Seigneur parle à ton cœur, puis là, il y a des exaucements de prière qui se font, puis tu vis des choses avec le Seigneur, ta vie commence à changer. À partir de ce moment-là, tu es appelé à une nouvelle destinée, un plan précis que Dieu veut faire dans ta vie. Puis ce plan-là commence à partir du moment que tu abandonnes toute résistance, comme l'apôtre Paul. Parce que l'apôtre Paul aurait pu dire, « Ouais, c'est Jésus, ben moi je veux suivre la religion de Moïse, puis je vais continuer à persécuter les chrétiens. » Mais c'est pas ça que Paul a fait. Il a pas résisté à la vision. Il a accepté la révélation, puis il a dit, c'est vrai, Jésus est là, puis il a reçu Jésus comme son sauveur personnel. C'est ce que ça nous dit au verset suivant. Ananias lui dit, maintenant, que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé, lave de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. C'est ce qu'il a fait. Il a reçu le pardon des péchés, il a reçu le Saint-Esprit, puis sa vie a commencé à changer. Mais qu'est-ce que ça nous dit à nous aujourd'hui, ça, en tant qu'enfants de Dieu? Ça nous dit que si tu as vécu une expérience avec le Seigneur Jésus-Christ, si tu as vécu cette nouvelle vie, si tu as vécu des exaucements de prière, tu as vécu la révélation de Dieu, tu as entendu la voix de Dieu, Dieu t'a parlé, Dieu a agi dans ta vie, le Seigneur Jésus s'est révélé à toi, si oui, tu es appelé à une nouvelle destinée. Dieu a un plan pour ta vie, puis il veut t'utiliser pour une mission spécifique. Laquelle? La même chose que l'apôtre Paul. Ça dit, le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste, à entendre les paroles de sa bouche, parce que tu vas lui servir de témoin auprès de tous les hommes de ce que des choses que tu as vues et entendues. Savez-vous qu'aujourd'hui, chacun de ceux qui ont reçu Jésus-Christ, Dieu veut vous utiliser à répandre le message parmi tous les hommes? Dieu veut servir de vous pour être un témoin de ce que vous avez vu et entendu. Dieu veut vous utiliser pour sauver des âmes, juste en avertissant les gens ou en leur disant, en leur partageant ce que vous avez vécu avec le Seigneur, pour leur dire, Jésus est vivant, Jésus est ressuscité, il a agi dans ma vie, il a pardonné tous mes péchés, il m'a guéri, il m'a exaucé mes prières. Racontez ce que Jésus a fait, puis vous allez voir la main de Dieu dans vos vies, sauver des âmes. Amen. Puis si vous n'avez pas encore accepté Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, Dieu vous appelle. Dieu veut que vous soyez un témoin. S'il a commencé à frapper à la porte de votre cœur, puis là, c'est comme si vous sentez, oui, ça a de l'air vrai, je me sens tiré, il y a quelque chose qui se passe, quand j'entends parler de Jésus, je me sens appelé. Oui, c'est l'appel du Saint-Esprit qui cogne à la porte de votre cœur, puis il veut rentrer. Résistez pas. Donnez-lui votre vie. Acceptez-le comme votre sauveur. Laissez-les rentrer, puis Dieu va changer votre vie. Le Seigneur Jésus va rentrer dans votre cœur, puis il va vous diriger, vous enseigner, vous conduire, puis il va vous utiliser pour être un témoin dans ce monde. Je vais faire une prière pour ceux qui veulent recevoir Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. Vous donner l'occasion de prendre position pour Jésus. Faites cette prière avec moi. Père, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis perdu, mais je sais que Jésus-Christ a pris sur lui mes péchés. J'accepte Jésus comme mon sauveur personnel, comme mon Seigneur. Je veux le suivre, je veux le servir tous les jours de ma vie. Prends ma vie, je te la donne, et conduis-moi dans le chemin de la vie éternelle. Je te prie dans le nom de Jésus. Amen. Si tu as fait cette prière, sache que Dieu l'a entendu. Dieu pardonne tous tes péchés. À cause de ta foi, tu viens de saisir la promesse de Dieu qui nous dit qu'en Jésus, tu peux recevoir le pardon de tes péchés puis recevoir le Saint-Esprit. Maintenant, marche avec le Seigneur. Demeure dans la foi. Accroche-toi aux promesses puis partage ta foi. Le Seigneur va t'utiliser pour sauver d'autres âmes. Amen.
Amen.